bien en Périgord.
Alors, je travaille au parc sur les questions de biodiversité et de patrimoine naturel. Je suis un peu généraliste, du coup. Je suis spécialiste de rien, on va dire. Voilà, par définition. Donc voilà, il y a divers sujets. Et parmi les sujets, c'est sur les abeilles. On avait commencé sur le parc, sur un travail, sur une emprise de gaz, de gazoduc, sur GRT gaz. Et puis, le sujet faisant, puis il y avait aussi un écho hein, politique assez... qu'on entendait, un bruit de fond pollinisateur, on pourrait presque dire finalement. Donc on a monté ce programme Life au parc, avec le souhait de le faire avec les 5 parcs de Nouvelle-Aquitaine. Et c'était bien parce que c'est 5 territoires différents, 5 cultures différentes, 5 jeux d'acteurs différents. Même si, ça doit être pénible à vivre. Puis du coup, je me suis débarrassé de ça à la fin.
Scientifique, je travaille sur le parc, la réserve naturelle de l'astroblème de Rochechouart. Alors, je vais ouvrir une parenthèse parce que ça me tient à cœur. Vous avez sur le territoire du parc naturel Périgord-Limousin le seul, l'unique cratère d'impact que nous avons en France et il est sur notre territoire. Je suis en charge de ce développement, j'accueille le public, donc je peux vous accueillir dans l'espace d'exposition permanent et nous sommes amenés aussi à faire du terrain, ce qui fait que vous pouvez venir vous promener et découvrir le sujet avec nous pour comprendre ce qui s'est passé il y a quelques millions d'années. Nous avons en fait un astéroïde, une comète qui est venue impacter et la collision, la rencontre a été très violente et ça nous a donné en fait tout un ensemble de roches nouvelles et ce sont ces roches-là que nous vous proposons de découvrir et de comprendre à travers un espace d'exposition mais également à travers un ensemble de nos balades. Et comme nous faisons partie du système réserve naturelle, qui est lui aussi un label qui a été donné à un certain nombre de zones, hein. Nous ne sommes pas une zone d'un seul et même tenant, nous avons des micro-sites, nous avons 12 micro-sites et ça représente à peu près 50 hectares qui ont été protégés au titre de la réserve, au titre des vestiges du cratère d'impact. Et il nous semble important, puisque c'est lié, la géologie et l'environnement, ça ne fait qu'un. Et lorsque le parc naturel est venu démarcher notre service, eh bien, nous avons répondu présent, ce qui fait qu'en 2018, il a été installé un certain nombre de batteries, on y reviendra je pense tout à l'heure. Et de 2018 à 2021, nous avons été avec 2 sites en réserve qui ont fait l'objet de prélèvements, de captures. Et voilà, nous avons un certain nombre de choses qui ont été constatées et qui font partie aussi d'un début, parce que finalement, je pense que nous poursuivons en fait cette démarche de meilleure connaissance, puisque c'est quand même quelque chose qui est important pour l'ensemble de nos territoires.
Plus en détail, bien sûr, les études qui ont été faites sur la réserve. Thomas, je vous laisse.
Moi, je suis arrivé en juin 2021. J'ai commencé à produire cette année, en juin de cette année. Et donc, je pratiquais déjà l'agriculture bio et l'idée, j'étais à côté de Nantes. J'étais salarié, un chantier d'insertion. Et du coup, l'idée, c'était d'être à mon compte et justement, peut-être plus travailler ces côtés lien avec l'environnement et l'impact de l'environnement, etc. Du coup, là, je suis au tout début, mais c'est vrai que, surtout en agriculture biologique, assez vite, on se pose cette question de quel est mon rapport avec l'environnement de ma ferme et comment je favorise plein de choses pour m'économiser du travail à moi. Donc avec les interactions, avec les insectes, notamment. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? On vient de profiter un peu plus détaillé des intervenants. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit? Peut-être des choses que vous aimeriez éclairer, des éléments de la presse, par exemple, que vous aimeriez éclairer?
Oui. Vous avez dit que vous avez installé des batteries. Ah, des batteries
pour
quoi? Alors en fait, on a apporté des éclairages. Je pouvais apporter des
des exemples, et puis du coup, mon collègue a vendu le matériel, mais j'ai vu qu'il y en avait. Voilà.
C'est des gamelles,
Ce sont des trois poubelles, alors ce sont des couleurs qui sont, comment dirais-je, sont en lien avec la couleur principale des fleurs que vous pouvez avoir dans l'environnement, et principalement des fleurs sauvages. Tout à l'heure, l'acteur est intervenu dessus, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Il faut que vous soyez vigilant par rapport à tout ce qui est semis de plantes, de fleurs, parce que souvent, certaines de nos fleurs, alors ça, il n'y a pas longtemps que je l'ai appris, parce que le fait d'avoir démarré ce travail de collecte pendant 4 ans pour le parc naturel, nous avons décidé au niveau de la réserve naturelle de faire des formations particulières et ciblées sur les pollinisateurs sauvages. Parce que là, on vous a parlé d'abeilles sauvages, mais vous avez tout un cortège qui est très vaste. Et on se rend compte que finalement, certaines de nos fleurs que nous semons dans nos jardins sont stériles et sont des pièges pour ces abeilles, et ça les fatigue plus qu'autre chose. Et c'est pas rentable pour elles, et elles se fatiguent et elles ont pas forcément tout ce qu'il faut pour se mettre, non pas sous la dent, mais sur la langue, et puis voilà, et etc. Donc pour les batteries, pour revenir là-dessus, nous avons en fait, nous proposons systématiquement trois couleurs principales. Ces batteries peuvent être soit mises au sol, puisqu'il faut que l'on respecte la hauteur de végétation. Ensuite, vous allez avoir, la plupart du temps, elles vont être toutes les trois à proximité les unes des autres. Et à l'intérieur, vous allez avoir de l'eau qui va être mélangée. Alors, Arnaud, si je reviens, il faudra que tu le dises. C'est de l'eau, et on va y mettre en fait du liquide vaisselle. Et en fait, ça veut dire que nous ne sauvons pas nos abeilles. Là, on les capture et elles meurent, en fait. Là, ce qui fait qu'à partir du moment où on a ce produit vaisselle, ça va les emmener au fond, en fait, ça va les noyer. Alors, moi, je sais que la première fois que mon collègue m'en a parlé, qu'il allait faire ça, je fais bon, c'est un petit peu dommage, parce que bon, on détruit l'objet de l'étude. Après, voilà, pour comprendre et étudier, on est obligé de capturer. Et une fois que j'ai fait la formation, j'ai compris pourquoi il fallait capturer et avoir des insectes inertes. C'est qu'en fait, les abeilles sauvages sont très compliquées à observer sur le terrain. Certaines sont vraiment petites. Il y en a certaines qui ne dépassent pas le centimètre. Et quand vous êtes dans la nature, qui sont posées sur les fleurs, où elles volent autour de vous, voilà, c'est pas facile. Et pour les reconnaître, eh bien, sous une guignot, c'est facile, mais quand elles sont avec dans la petite boîte de capture, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, je l'ai compris grâce à la formation, et j'ai tout à fait pris la mesure de ce côté nécessaire à la capture pour pouvoir mieux les comprendre. Et ce qui fait que pour notre part, nous avons en fait travaillé, comme je vous disais tout à l'heure, de 2018 à 2021. Il y a des passages réguliers, je ne me rappelle plus la cadence, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais Arnaud, tu vas pouvoir compléter, s'il te plaît. Je sais que ça a été d'avril à septembre, ça a été fait pour ces pauses-là. Et je crois que ça doit être les 3-4 semaines, je crois bien.
On essaie de passer à peu près une fois par mois.
Voilà.
L'objectif, c'est de viser une période où il y a du beau temps. S'il pleut, l'abeille va avoir pas trop volé, quoi. Donc on essaie de viser des périodes où il y a 3-4 jours de beau temps sur le mois. Donc c'est vrai que du coup, ça va naviguer entre 3 semaines, peut-être 5-6. Alors, au mois de juillet, août, c'est pas le gros problème. Au mois d'avril, des fois, c'est un petit peu compliqué. Il faut aussi assister à un créneau de 3 jours de beau temps, tu crois. Et puis ben, c'est pareil au mois d'octobre, où là on commence à se dégrader au niveau de la météo, et ben, c'est plus pluvieux. Donc on fait ça de manière assez réitérée, et pour pouvoir couvrir l'ensemble des bestioles, les printanières, on va dire les estivales, et puis celles de fin de saison en fait. Et on renouvelle ça sur 3 ans pour avoir de la robustesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un individu exceptionnel, capturé. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quel sont le cortège moyen, on va dire, d'abeilles en fait. Même si on va capturer des bêtes rares, mais c'est pas l'objectif de la bête rare, en fait, hein, c'est vraiment avoir le cortège moyen. Donc on renouvelle ça avec le même protocole. Ça c'est un peu répétitif. Un peu ennuyeux, forcément. Mais bon, ouais. Alors, on peut être choqué. Ça vous choque autant de mise à mort ou pas?
Ouais.
Ouais. Comme tu beaucoup, hein, je ne veux pas vous cacher. Hein. Bah, ouais, c'est 1000 bestioles à peu près, par une année. Ouais,
ça me fait magnifique les chasseurs.
Mais après, c'est anthropologique, comme ça. Là, je défends ma...
Tout à fait.
Il y a très peu de taxons sur lesquels on peut avoir une détermination fiable à l'aide d'un fil à papillon, c'est-à-dire que les taxons lambda, les papillons de jour, là, on arrive à déterminer, allez, on va dire, 60% de façon certaine de l'espèce. Après, tout le monde des insectes, on est obligé encore de capturer, d'identifier, d'identifier. Et c'est pas seulement sous une loupe, hein, c'est, on dissèque aussi plus les appareils génitaux. En fait, on est là sur des choses.
Vous faites quoi avec
ces... C'est juste pour faire du recensement. Moi, je contribue ça de façon amateur, je suis professionnel. Et c'est pour faire des recensements et un diagnostic de ce qu'on a là, actuellement présent, une cartographie. Sur les abeilles, ça ne fait que commencer, mais on s'y attache. Une cartographie, là, une photographie de la présence ou pas de ces espèces avant qu'elles disparaissent. En fait, on n'a pas le choix. De les connaître. Il faut d'abord savoir si elles sont là avant de dire qu'on va les protéger.
Pour donner un exemple, sur la Dordogne, quand on a commencé le piégeage, je crois qu'il y avait 25 espèces connues. Et on est arrivé à 250. Voilà. Donc,
ce qu'il faut expliquer, c'est que pour faire la différence entre deux abeilles, ça va être peut-être le nombre de morceaux qu'il y a dans une antenne, quoi. Ou ça va être une petite trace qu'il y a sous l'abdomen, qu'il faut aller chercher. Et entre deux abeilles, ça va être deux abeilles qui ne vont pas butiner la même fleur, qui ne vont pas faire le même trou, qui ne vont pas du tout avoir la même fonction, le même habitat. Et du coup, ça demande vraiment une observation qui est hyper minutieuse. Quoi.
Et comme Arnaud, tu disais, pareil sur le PNR 1000 vaches, par exemple, il y a, en 1850, il y avait 14 espèces connues, en 2019, il n'y avait plus que 4. Et en fait, il y a la connaissance en fait, qui s'est perdue, où il n'y avait pas du tout de connaissance. On a besoin en fait, de connaître ces espèces-là, et la seule façon, c'est pour la science, en fait, hein, la seule façon, c'est... malheureusement de les tuer, après c'est une ponction infime, ça reste, c'est à une échelle tout à fait raisonnable et les pièges ne vont pas être posés à des endroits où il y a des colonies connues et où ça risque de piéger un nombre important de spécimens.
Il est probable qu'un déplacement en voiture avec le phare soit plus d'insectes que les coupelles. Mais c'est peut-être. Hein,
C'est bien de se préciser quand même. Je l'ai tué, mais c'est pour la science. Vous pouvez remplacer Tarek Bayon d'ailleurs, qui n'était pas là aujourd'hui, mais c'est bien du coup.
Et moi, ce qui m'intéressait, mais je peux vous participer au débat, c'est dans votre formation de. Maraîcher, vous avez eu un apport sur les pollinisateurs, une connaissance,
Une approche en mérite. Pour boucler la boucle avec ce qu'on disait, moi j'ai pas d'informations aujourd'hui pour aider les abeilles sauvages ou plein d'insectes. Déjà je vais m'intéresser surtout aux bourdons et un peu aux guêpes qui mangent les pucerons dans la fonction principale pour qu'ils m'aident au maraîchage, alors qu'en fait il y a plein d'autres choses qui pourraient m'aider mais qu'on connaît pas. Et après, comment je fais pour les aider? Est-ce qu'il faut que je mette des pailles creuses, plus de pailles creuses, parce que par ici, il y a plus de pailles creuses? Est-ce qu'il faut que je mette des fleurs jaunes, des bleues ou des blanches? Aujourd'hui, je ne sais pas. Et du coup, il faut favoriser d'une manière générale la biodiversité. Mais voilà, on disait tout à l'heure qu'il y a certaines plantes qu'on va mettre qui sont stériles. Et du coup, moi, je vais passer du temps à mettre une plante stérile qui va défavoriser les insectes. Enfin, voilà. Donc cette connaissance... même si effectivement ça demande de tuer un certain nombre de bestioles, c'est important pour que moi, après, je puisse utiliser les informations de façon un peu cohérente.
Alors, le parc naturel régional Limousin a été à la manœuvre pour cette journée spectacle, on va dire, et débat. Je suis avec deux intervenants, un intervenant et une intervenante, que je vais laisser se présenter tout simplement.
Alors moi je suis Eva Thibon, donc je travaille au Parc Périgord Limousin et je suis la coordinatrice du projet LIFE Abeilles Sauvages, donc White Bees qu'on appelle aussi, donc Abeilles Sauvages dans les PNR de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et donc moi je suis la coordinatrice régionale et Manon qui était là aussi, elle est la coordinatrice vraiment des actions sur le parc Périgord-Limousin.
On peut rappeler quels sont les 5 parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine ?
Alors, il y a Marais-Poitevin, Langue de Gascogne, Millevaches, Médoc, et puis nous, Périgord-Limousin. Et nous, en fait, on est coordinateurs du LIFE.
Est-ce qu'on peut préciser un peu LIFE ? Alors, en anglais, la vie, hein, mais...
LIFE, c'est l'instrument financier de l'Europe.
D'accord.
Et ça permet à l'Europe de subventionner des projets qui sont assez ambitieux. Sur des territoires assez vastes sur toutes les questions enjeux de biodiversité. Donc nous, par exemple, on est financé à hauteur de 60% par l'Union européenne.
Quand vous dites projet, n'importe qui peut présenter un projet ? Il faut être une association, une entité, une collectivité ?
Bonne question.
Non, je ne voulais pas faire la question piège.
Je
mais...
pense que tout le monde peut répondre.
C'est un programme LIFE ?
Ouais.
Ah oui, tout le monde.
Tout le monde peut répondre.
Même un particulier, s'il a une idée, j'imagine que c'est plus difficile.
Il faut avoir un très bon dossier.
Oui, parce que vous dites 60%, il manque quand même 40%. Alors après, c'est qui ? C'est la région, c'est le département ?
Oui, nous, on est financé par la région, les départements, l'OFB aussi, le ministère de la Transition écologique nous a accompagnés aussi. Et puis Enedis et GRT Gaz, parce qu'on travaille avec eux sur certaines de nos actions. Et en fait, on est toujours en recherche de financement, hein, ça se fait petit à petit.
Oui. Voilà.
Les programmes LIFE, c'est des programmes expérimentaux.
D'accord.
On est là pour tester quelque chose. Ça marche ou ça ne marchera pas, ça c'est une deuxième question, c'est le résultat.
Ça peut être en termes de pratique, mais aussi d'observation.
Oui, c'est de l'expérimentation et l'objectif après, en fonction du résultat, de l'intégrer dans les politiques régulières.
D'accord.
Ouais.
Mais on est sur de l'expérimentation.
Et
donc
puis
on ne va pas changer tout.
Aussi.
Oui. On ne va pas pouvoir tout résoudre, tout faire.
Bien sûr.
Voilà, on va travailler sur des points d'expérimentation avec parfois réussite ou parfois ou pas.
Mais voilà. Une mission à remplir et après voir si, entre guillemets, le politique au sens noble du terme peut s'en saisir. Il y a un peu ça derrière. Quoi.
Ouais. Les politiques et notamment les fonds européens réguliers, comme ceux de la PAC par exemple, est-ce qu'ils vont pouvoir se saisir de la question de l'abeille ? Bon, voilà, on l'expérimente un peu dans un programme LIFE, c'est l'objectif. Ça marche ou ça marche pas, on exporte après ça, on importe ça dans les fonds réguliers européens. Quoi.
Et alors là, par exemple, pour ce qui est de l'exemple très précis de l'abeille sauvage, des abeilles sauvages, pardon, comment ça s'est noué ? C'est l'Europe qui dit il faut s'intéresser aux abeilles sauvages, ou là c'est la région Aquitaine, ou les parcs régionaux qui disent c'est un sujet majeur pour nous ?
Eh bien nous, c'est parce qu'au moment où on l'a écrit, donc on a commencé avec Arnaud, on l'a écrit tous les deux en fait. Ouais. On a commencé en 2019 et donc il y avait déjà un plan national d'action qui était porté par le ministère de la Transition écologique.
D'accord.
Sur ces enjeux pollinisateurs sauvages. Donc c'est aussi pour ça qu'on a l'Office pour les insectes et leur environnement comme bénéficiaire du LIFE, hein, il fait partie de l'équipe.
D'accord.
LIFE aussi. Et donc il y avait le plan national et en fait la région Nouvelle-Aquitaine, notamment dans tout son plan Néoterra, avait cet enjeu pollinisateur sauvage qui a émergé donc en 2017. Via la création en fait, d'un plan régional d'action. Donc là, il est co-géré par la région et la DREAL. C'est ça, hein, Arnaud ?
La DREAL, c'est quoi ? Direction régionale de quelque chose, j'imagine.
C'est le service en région du ministère de l'Environnement.
D'accord.
Voilà.
Direction régionale
de
l'Environnement. Enfin, habiter et logement aussi.
Mais... Donc okay. Voilà, donc là, donc l'État et la région se sont intéressés à ça. Et donc les PNR, en fait, se sont lancés dedans sur un projet, parce que ça fait longtemps que la région voulait aussi qu'on ait des projets interparcs. Et donc voilà, on s'est lancé là-dedans. Et en fait, ça a été concomitant aussi. La Commission européenne, en fait, chaque année, enfin, dans tous les 4 ans, propose des thèmes un petit peu sur lesquels on aimerait bien que les nouveaux LIFE se lancent. Et du coup, bah, ça concordait pile.
Et alors, la formule que ça a pris aujourd'hui, un spectacle, enfin, un acteur ou un auteur, metteur en scène, j'imagine, c'est vous qui l'avez sélectionné, qui donc va se balader sur les 5 parcs
c'est
et provoquer un café-débat comme ça à chaque fois autour.
C'est ça, parce qu'en fait, donc, on a aussi l'ARB, donc, l'Agence régionale de la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie aussi du projet LIFE. Ouais. Et donc, on voulait proposer quelque chose qui changeait un petit peu des formats qu'on avait l'habitude de faire, nous, au parc, c'est-à-dire une sortie nature dans une lande ou autre.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, on voulait proposer autre chose et on s'est concerté les 5 parcs. Et donc on a décidé de proposer une partie plutôt culturelle, donc via ce qu'on vient de voir, et puis une partie débat. Et en fait, les rendez-vous de la biodiversité, l'ARB le fait de façon régulière aussi, eux, dans leur planning hors LIFE. C'est juste que nous, on l'a adapté à la thématique des pollinisateurs sauvages.
Parce que je posais des questions tout à l'heure sur les écoles, mais je me disais qu'une formule comme ça pour des jeunes, ça
c'est
peut être aussi une façon d'entrer dans la problématique de façon ludique, agréable. Et...
C'est l'objectif d'un programme LIFE, d'expérimenter. Est-ce qu'un spectacle de théâtre sur des questions de biodiversité, d'abeilles sauvages ou de pollinisateurs, est-ce que ça marche ? C'est une question qu'on se pose. Oui, on le teste.
Bah, ça fait partie de la démarche vraiment. Quoi.
Donc, et donc du coup, chaque parc a eu son rendez-vous de la biodiversité. Donc nous, on est le quatrième. Donc il y a eu le Médoc qui l'a fait il y a 2 semaines maintenant. Ils ont eu 60 de personnes. Ça a super bien marché. 1000 vaches, c'était vendredi. Ils ont eu 8 personnes, un peu moins. Langue de Gascogne, hier, ils étaient à 30. Là, c'est nous. Et Marais Poitevin, voilà, ce sera le 12 décembre.
En précisant que là, on était en plein pendant le direct France-Pologne.
Oui, on a, donc, pas avantagé.
Mal. Est-ce que c'est le même public? Je sais pas.
Bon, vous n'en tirez pas si mal que ça par rapport aux chiffres que vous dites, parce que évidemment, ça monopolise l'attention. Ouais. Est-ce qu'on peut donner une idée de projet à venir?
Eh bien, en fait, chaque année, les rendez-vous de la biodiversité, en fait, on a décidé que chaque année, on allait en proposer un sur le parc. En fait, on choisit un thème commun entre les parcs. On choisit quelque chose de culturel. Donc là, c'était une pièce de théâtre, mais l'année prochaine, on pourrait imaginer que c'est un escape game... totalement autre chose, voilà, une proposition culturelle avec toujours un débat sur une thématique un peu différente, mais toujours vers les abeilles sauvages. Donc chaque année, on en proposera un.
Est-ce qu'on trouve ensuite l'information, je pense aux auditeurs,
oui,
sur votre site internet?
Oui, on
des bilans qui vont être faits, des expériences, des retours?
Du coup, on a une page sur le site internet du parc, donc pnrpl.com, il y a ça. Et en fait, nous, on a aussi un site internet dédié au life, ainsi qu'une page Facebook.
D'accord. Donc on tape life, tout simplement?
En fait, il faut life wide bees, malheureusement, c'est en anglais. Voilà. Mais voilà, on met juste Life White Bees. Mais de toute façon, nous, sur notre page sur le parc, il y a le lien pour rebasculer sur le site internet et
d'accord,
sur notre page.
C'est un aller-retour.
Oui, c'est ça. Et du coup, il y a toutes les infos de tout ce qui se passe.
Bon, bah après, c'est à chacun de se mobiliser pour s'éduquer un petit peu à tout ça et puis inventer de nouvelles perspectives.
Eh oui.
Merci beaucoup à vous tous les deux.